Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde l'alimentation sous toutes ses formes et qui en décrypte tous les enjeux. Les Bonnes Choses, c'est toujours un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau qui est la chronique finale de l'émission, présentée aujourd'hui par Pierre Hiverna, notre partenaire de la plateforme des cultures du goût, Alimentation Générale. Cher Pierre, bonjour.
Bonjour Caroline.
Quel sujet aujourd'hui dans la cerise sur le gâteau?
Eh bien, j'ai décidé de vous parler d'un livre qui devrait fortement intéresser vos auditeurs, puisqu'il y est question à la fois d'histoire de la gastronomie et d'art contemporain.
À tout à l'heure, 12h25. Bonjour Matteo Caranta.
Bonjour Caroline.
La madeleine, c'est le souvenir gustatif d'une personnalité. Quelle personnalité aujourd'hui?
Eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer l'un des plus grands noms de l'architecture, l'italien Renzo Piano, qui m'a emmené lui aussi au bord de l'eau.
À tout à l'heure pour la madeleine et pour notre plat du jour. Direction la Bretagne et le petit village de Portivy sur la presqu'île de Quiberon. Un petit village de bord de mer battu par les vents et les flots, où Hervé et Catherine Bourdon ont posé leur valise de parisiens voilà 15 ans en rachetant le petit hôtel du Grand Large. 15 ans après, une étoile Michelin pour sa merveilleuse cuisine marine et végétale, et une distinction pour son engagement durable. Alors que Catherine officie en salle et s'occupe du vin, Hervé, lui, dirige les opérations en cuisine avec sa fine équipe et sert une myriade de plats en même temps pour restituer en bouche le déferlement de sensations que nos sens reçoivent en parcourant les paysages de la presqu'île, de l'écume des vagues au tapis végétal de la côte sauvage. Nous lui avons rendu visite en plein mois d'août. Première halte sur la terrasse avec un petit café italien dont lui seul a le secret. Mais avant cela, je lui ai demandé où nous nous trouvions.
Alors, on est sur la terrasse dite Covid du petit hôtel du Grand Large à Portivy. Et on est directement face à l'océan Atlantique et en face de nous. Alors, est-ce qu'on voit aujourd'hui? Non, on ne voit pas Groix aujourd'hui, il y a l'île de Groix. Hein. On devine quelques roches, l'Orient, et on peut voir Montréal, mais par temps très clair. Parce que c'est juste en face. Mais c'est arrivé, mais pas aujourd'hui. Voilà où on est.
Comment avez-vous atterri ici?
Catherine et moi avons atterri à Portivy complètement par hasard. Catherine est née à L'Orient. Ses parents sont originaires de Vannes. Et dans un profond désir de revenir en Bretagne, on avait cherché à l'époque un hôtel-restaurant à taille humaine. La zone de recherche était entre L'Orient et Vannes, et on est pile au milieu. Et on est arrivé ici, on ne connaissait pas du tout le village, Portivy, et cet hôtel était à vendre. On n'a pas visité d'autres endroits, on est tombé amoureux immédiatement de cet endroit incroyable, qui est unique au monde.
La cuisine, c'est un rêve de gosse pour vous?
Absolument, oui. J'ai toujours voulu faire ça, du plus haut que je me souvienne. Au début, je voulais être charcutier, parce que j'ai une passion pour les rillettes et le saucisson à l'ail.
Que vous ne faites pas en cuisine,
fais, hein, je suis en plus,
parenthèse.
Je suis incapable de le faire. Mais quand j'étais gosse, j'adorais ça. Donc je me suis dit, peut-être de façon un peu simpliste, que si je les fabriquais, j'en manquerais jamais. Mais de toute façon, j'ai toujours fait la cuisine du plus loin que je me souvienne. J'avais des parents qui travaillaient beaucoup. Et ma mère, qui est excellente cuisinière, elle préparait... le week-end, tous les plats pour la semaine, et elle faisait un marché délirant le samedi, et puis après, les menus étaient faits, et souvent, on se partageait, mon frère et moi, on avait une semaine, il y en avait un qui s'occupait de mettre et de desservir la table, et l'autre semaine, il faisait la cuisine, il préparait. Et comme mon frangin détestait faire la cuisine, on s'échangeait le truc, donc lui, il s'occupait de la salle, on va dire, et moi, déjà, à l'époque, je m'occupais de la cuisine, et je me permettais quelques inventions ridicules. Mais je m'amusais beaucoup, on faisait du poulet à la broche dans la cheminée, enfin voilà. Et mon frère et moi qui avions en charge cette intendance-là, mais qui était hautement préparée par ma mère évidemment à l'avance. Mais c'était chouette. Donc voilà,
c'est un souvenir joyeux.
C'est un souvenir joyeux, ouais, absolument.
Aujourd'hui, vous faites des produits de la mer, vous faites beaucoup de légumes. On va d'ailleurs après aller visiter vos jardins.
Je suis convaincu que la richesse de goût du végétal est bien plus large et plus puissante que celle des protéines animales. Et plus on travaille les légumes, plus on s'en rend compte. Plus on se rend compte que chaque espèce végétale, il y a de multiples variétés. avec des valeurs gustatives qui sont à chaque fois différentes. Quand on goûte différentes prunes ou différentes pommes, on le sait. Mais c'est valable aussi pour le céleri rave, c'est valable évidemment pour les tomates, c'est valable pour plein de choses. Donc on n'en est qu'à l'aube de se rendre compte de cette valeur gustative du végétal. Et aujourd'hui, on sait, finalement, on a une cuisine en France qui est assise un peu sur les sauces. Et c'est la sauce qui donne la valeur aux protéines animales, finalement. Je pense qu'on est arrivé à un moment donné où il faut se poser la question de passer du monde gastronomique à la gastronomie éthique ou à l'alimentation éthique. Bah, parce que sinon, il n'y aura pas à manger pour tout le monde, c'est évident. Et puis, on a déjà assez flingué le biotope. Il faut arrêter, quoi. Donc, moi, je préfère être un peu en avance.
Vous avez été distingué par le Michelin pour votre cuisine éco-responsable. Est-ce que cette distinction vous donne une responsabilité supplémentaire ? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous ?
Bah, c'est toujours agréable de savoir que le chemin qu'on emprunte est reconnu par les autres, en particulier par le Michelin, parce qu'on en pense qu'on en veut, mais aujourd'hui, c'est quand même le seul guide qui est capable de remplir une salle. Donc nous, on a besoin de ça, évidemment, hein, pour vivre. Et aujourd'hui, c'est vrai que le guide Michelin, ils sont en mutation parce que le monde de la gastronomie et parce que le monde, tout simplement, est en mutation aussi. Donc forcément, ils ont une vision de ce que doit être la gastronomie de demain qui est assez juste, en fait, aujourd'hui.
Vous avez l'air d'avoir une éthique particulière ou un esprit particulier de votre approche de la table, dans votre approche de la table. Est-ce que de ce point de vue-là, la crise sanitaire qu'on a traversée, oui, qu'on traverse encore, a changé quelque chose dans votre rapport à votre métier ?
Ça a été à la fois une pause difficile et une pause merveilleuse, mais surtout ça a été un accélérateur. C'est une prise de conscience qui a été... Bon, évidemment, le terreau était déjà là, mais il y a eu la gifle a été tellement énorme, puisque c'est devenu tangible, le danger et la mutation, que oui, évidemment, on a changé, et surtout, on s'est, entre guillemets, un peu radicalisé. Mais je crois que, finalement, aujourd'hui, on peut peut-être être pris pour des radicaux, mais demain, on sera rien d'autre que des gens très normaux, quoi.
Si vous étiez des radicaux, c'est des radicaux de quoi ?
De la vertu dans tout ce qui a trait à l'humain. À la fois des gens qui travaillent pour nous, des gens qu'on reçoit, et de comment on les traite. Que ce soit de l'ingestion, finalement, des produits qu'on leur fournit, mais aussi on fait travailler des gens, et puis on reçoit des gens avec le sourire, avec la sincérité, avec la générosité. Et ça, la crise sanitaire, ça a été quelque chose de très positif pour nous.
Si on allait en cuisine ?
Oui, pourquoi pas.
Que vous nous montriez
votre
technique teppanyaki. Alors dans cette cuisine, on entend pas mal de moteurs.
Oui.
On entend évidemment.
Alors c'est bah ouais, malheureusement comme
du frigo. Ouais. On n'entend pas encore mijoter en cuisine. La vraie activité aura lieu cet après-midi pour ce soir.
Exactement.
Et alors votre piano, c'est un teppanyaki.
Mon piano, ouais, on n'a pas de piano ici. Bah, en fait, moi, n'ayant appris avec personne, je cuisine à ma façon. Moi, j'aime pas trop les poêles. Et du coup, j'ai trouvé dans cette méthode de cuisson qu'est le teppanyaki, c'est le rêve pour moi parce que c'est la possibilité de faire une cuisine immédiate. Tout cuit très vite, rien ne s'abîme, rien n'a le temps de s'altérer. C'est une cuisine ultra intuitive puisqu'on se déplace sur le teppanyaki et on a des chaleurs différentes selon l'endroit où on se positionne, en fait. Donc il y a de la place pour tout et accessoirement... ça fait qu'on a une seule et immense grande poêle à nettoyer à la fin du service, qui est le teppanyaki, et c'est tout. Comment c'est possible qu'il ne soit pas arrivé avec mes macros à 8h52 ? Je vais juste m'enquérir d'un petit souci. Alors attends, je regarde si j'ai pas eu un message là-bas. Happy birthday, machin.
Les macros qui n'arrivent pas n'empêchent pas le chef de vouloir sortir de sa cuisine pour nous emmener visiter ses trois jardins potagers, le jardin aux fleurs, le jardin des pommes et le jardin de la gare, car au fond, chez les Bourdons, c'est au jardin que tout commence.
On va prendre à droite, là.
Là, on va dans quel jardin, déjà ?
Là, ça, c'est le jardin des fleurs. Donc là, il y a tout, de la tagette en passant par le cosmos, les capucines, il y a des herbes aromatiques, il y a de la menthe. Mais après, c'est vrai que chaque fleur a sa valeur, mais il y en a qui ont des qualités plutôt esthétiques et d'autres qui ont des vraies qualités gustatives qui sont merveilleuses.
Hein. Comme ?
Bah, comme là-bas, je vois les dahlias, là, les pétales sont incroyables, ça a une saveur incroyable. On a des bégonias en serre Les pétales de fleurs de bégonia, c'est légèrement acidulé, un peu citronné, c'est incroyable.
Là, on a quelques semis qui sont en extérieur en ce moment. Là, c'est les oignons pour l'année prochaine. Parce qu'en maraîchage, hein, il faut toujours avoir un temps d'avance sur le planning de la nature pour pouvoir prévoir et pas se faire avoir. Ce qui est très compliqué, c'est d'avoir de la production tout le temps. Parce que quand on a au restaurant, on fait 50 couverts par jour, 2 fois 25, sur une cuisine qui est essentiellement végétale, pour faire la recette qu'on fait avec les haricots verts.
Le maquis de haricots verts.
Voilà, le maquis de haricots verts. Il faut une quantité de haricots verts absolument phénoménale. On n'y pense pas forcément avant. Et nous, ça fait 8-9 ans hein, maintenant qu'on a nos potagers. Et on commence juste à prendre la mesure de ça.
Les trois jardins sont assez près les uns des autres.
Oui, ils sont tous dans Portivy. Donc Portivy, c'est un grand, petit hein, village de Saint-Pierre-Quiberon. Je ne sais plus combien on est, mais c'est peut-être petit. Une centaine, quoi.
Oui,
110, 120, on est tranquille.
D'accord.
On est très, très
voilà,
tranquille.
Voilà, il y a un camion poubelle qui a décidé voilà. D'arriver nous suivre. On va couper, je crois. Hein. Oh, là, je vois un jardin.
Voilà, donc on arrive à notre deuxième jardin qui est dans le village, qui est près de la plage du Fozo. Donc un jardin très sableux, donc assez performant. Pour les racines, en particulier les carottes. Donc voilà, là c'est un terrain qui est extrêmement sec. Donc on n'a plus que très peu de cultures dans ce jardin-là. Dieu merci, il y a quelques pommes qu'on va pouvoir récolter. Il y a des coins ici, des pêches ici qui sont en début de mûrissement, qui sont magnifiques. Là on les voit là.
Oh
voilà, c'est une merveille, elles sont presque mûres. Ici, quand on veut bien être à l'écoute, on se fait un peu happer. Et digéré par l'univers qui nous entoure. C'est un endroit qui est tellement puissant. Nous, on aime bien dire, enfin, c'est tellurique ici. Il y a tellement de force qu'on n'est rien ici. Donc, nous, on s'est fondu un petit peu dans notre paysage et on est finalement devenu notre paysage. Et donc, on n'a pas besoin d'apprendre. Il y a des opportunités qui se créent, il y a des envies qui se font sentir. Et puis, on y répond presque naturellement, quoi. On ne se pose pas la question. Les sols, comment ils existent, comment ils vont donner, de quoi ils ont l'air, finalement. On s'en fout, on essaye de juste de...
Faites corps avec
voilà.
Tout ce qui vous environne.
Voilà.
Ça vous correspond
bien. C'est très chinois.
Ça correspond
hein.
En tous les cas à la cuisine que vous rêviez de faire.
Je crois, ouais. Mais j'en suis pas certain. Mais en tout cas, depuis finalement assez peu de temps, je suis très heureux dans ma cuisine. Et j'ai l'impression qu'on fait une cuisine et qu'on accueille les gens, c'est-à-dire dans l'expérience globale qu'on fournit aux gens, on est plus proche de ce qu'on est dans la réalité. Dans le côté tellurique, il y a un côté un peu minéral et magmatique, je ne sais pas si on l'a, parce que c'est compliqué de rendre ça dans la palette de saveurs. Mais en tout cas, moi j'ai la sensation de faire une cuisine qui est brute. Pas brutale, parce que là ça serait déplacé, mais en tout cas brute.
Elle est très douce.
Oui, mais elle peut être brute en gardant cette forme de douceur qu'on vit ici. Hein. Et c'est finalement... le cheminement de 15 années de travail, parce que quand on a commencé ici, on faisait en dessert des crèmes brûlées, et puis on vendait des langoustines mayonnaise, hein, et au fur et à mesure, on creuse un sillon, et puis on cultive son jardin, et on s'y sent bien, et sans être furieusement taoïste, on est sur une voie, et on continue sur cette voie, parce qu'on ne peut pas faire autrement, finalement. Pendant longtemps, comme je viens d'un univers de la pub et de la création, donc c'était très intellectualisé, je cherchais une idée pour faire mes assiettes. Et puis ça m'a passé parce que je me suis rendu compte que c'était un peu artificiel. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt mes mains qui réfléchissent et que c'est le geste qui va générer l'assiette. Je ne vais pas cueillir une carotte en me disant wow, « Waouh, qu'est-ce que c'est inspirant une carotte !» Alors que finalement, si, ça l'est. Mais je vais plutôt être bouleversé par la générosité du sol et puis de cette graine qu'on a semée... et qui a eu suffisamment d'espoir en la vie pour pousser dans le bon sens, parce que rien ne l'obligeait de sortir avant qu'elle voie la lumière, rien ne l'obligeait à pousser dans ce sens-là. Et je trouve ça remarquable. Quoi.
Oui, mais on peut se contenter de manger une carotte en pensant à ce que vous dites. Or, on ne mange pas une carotte dans votre grande assiette du potager. Il y a des carottes, mais il y a plein d'autres choses. Il y a même de la brioche émiettée
ouais.
Au shiitake.
Ouais.
Oui, comment vient l'idée de mettre ces légumes, ces
ouais.
Fleurs, et puis la brioche est mise tétée avec un
ouais.
Champignon.
Cette assiette-là, plus simplement, vous allez voir, c'est extrêmement terre-à-terre et simplissime, en fait. C'est-à-dire qu'au tout début de nos cultures potagères, je suis arrivé dans le jardin un matin. À l'époque, c'est nous, avec Catherine, qui cultivions et faisions les récoltes tous les jours. Et je suis arrivé dans le jardin des fleurs qu'on vient de quitter, puisque c'était le sol qu'on avait.
Et là, j'ai regardé, je me suis dit, oh non, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Il y en a trop. Je ne vais pas pouvoir gérer tous ces fruits, tous ces légumes et toutes ces herbes. Et tout d'un coup, je me suis dit, bah, je vais faire exactement comme ce que fait la nature, c'est-à-dire je vais tout mettre ensemble. Voilà. Et après, je me suis dit, bah, si je reproduis le potager tel qu'il est à ce moment-là, ça me donne une photo de ce qu'est finalement la presqu'île à un moment donné. Et puis, bah, je vais lui donner un socle terrien qui va être une brioche avec du champignon, parce que les champignons, finalement, le mycélium, c'est dans le sol. Voilà. C'est très con, hein.
C'est simpliste. Après, on affine. Oui. Parce que moi, je mets tout ensemble, c'est pas très bon. Hein.
Ah, faut essayer. Je suis sûr que ça peut être pas mal.
Bon, allez, on entre dans la voiture pour aller au dernier jardin. Et non, Mathéo, on ne vous avait pas oublié, c'est l'heure de la Madeleine.
Oui, de la Madeleine, et je voulais commencer cette Madeleine avec une phrase, « La beauté sauvera le monde ». C'est avec cette phrase que, de l'idiot de Dostoïevski, Renzo Piano a conclu la conférence qu'il a donnée au pavillon de l'Arsenal à Paris, mais ça c'était avant le confinement, il y a longtemps donc, et l'architecte du Centre Pompidou, du nouveau tribunal de Paris, du Whitney Museum de New York, très attaché à la transparence, à la légèreté, à l'espace public, eh bien il a pris le temps avec nous de se souvenir. Et de quoi il se souvient, Renzo Piano? Eh bien des heures passer à regarder le beau sur la plage de Gênes.
Ma Madeleine, je crois que c'est le goût des rabats de rocher, les patelles. En italien, ça s'appelle patelle. Je crois que même en français, ça s'appelle patelle. C'est des fruits de mer qui sont accrochés aux rochers de mer. Je crois que c'est la chose qui revient tout le temps. C'est en même temps le goût et le parfum. Les rabats de rochers, c'est petit et ils sont bien accrochés au rocher. C'est difficile à arracher. Vous voyez, quand vous avez 7 ans, 8 ans, je parle de mon enfance, et mon terrain de jeu, c'était la plage de Gênes. C'était la plage qu'on faisait tout. Et ce fruit de mer, il est plat, et il a une coquille qui contient un petit petite partie, quelque chose qui a la saveur justement des huîtres. Mais ce goût, c'est pas seulement un goût, c'est aussi un parfum. Quand il y a la tramontane, le vent vient de terre, les vagues sont basses, parce que sinon on peut pas aller sur le rocher, surtout quand vous avez 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et là, le problème, c'est toujours arracher la première, parce que vous avez rien dans les mains, vous êtes un enfant. Mais dès que vous arrivez à arracher la première, après ça devient facile, puisque après vous avez la coquille avec laquelle vous pouvez arriver à décrocher les autres. Et vous le mangez comme ça. Alors le temps était quand même un temps qui était passé avec, en gardant dans la bouche le goût de petite huître. Et c'est un parfum qui appartient à la plage, qui appartient à la mer. Et c'est la même sensation qu'on a quand on prend une huître dans la bouche. Moi, j'ai découvert les huîtres quand je suis arrivé à Paris, beaucoup plus tard. Une patelle, c'est un petit huître, un huître pauvre, petit. Et le goût change dans la bouche. Enfin, d'abord, c'est le sel, et après, et on sent la consistance, on le mange. Ça dure assez longtemps quand même. Bien sûr, sans citron, sans rien. Les patelles, ça se mangeait comme ça, avec l'eau de mer. Et ça, le parfum de la mer, de l'eau.
Merci beaucoup, Matteo Caranta, pour cette Madeleine. Toutes les informations et bien plus encore seront sur notre site internet, bien entendu, à la page de la Madeleine. L'iode, l'air marin, les coquillages, voilà qui sied bien à notre invité du jour, le chef Hervé Bourdon, qui nous a fait la visite guidée de son petit hôtel du Grand Large à Portivy, dans le Morbihan. Visite de son dernier jardin, le jardin de la gare. Alors, on y va dans ce jardin.
Voilà, donc, alors dans ce jardin, bah, il y a...
Que trouve-t-on ? Qu'on ne trouvait pas dans les autres.
Bah, y a tout, hein, puisque ici, là, on voit ce qu'on voit à l'œil tout de suite. Donc, c'est un petit champ de tournesol. On a des capucines, on a des maïs ici. On a encore des choux qui poussent sous leur filet ici. On a des haricots verts, des haricots violets, ceux donc dont on parlait tout à l'heure qui servent à faire le maquis de haricots. On a des tomates, on a des fleurs de tagette, on a des poireaux, on a des salsifis. On a des courges, on a
et là, on se dit...
On a tout, quoi.
On a tout, Que fait-on à partir voilà. de ça? C'était et la question
on fait une
que
assiette.
Vous posiez tout à l'heure. On compose l'assiette.
Voilà.
Là, vous n'arrivez pas à joindre...
J'arrive pas à joindre le marailleur avec qui je travaille, qui doit me livrer 12 kilos de maquereaux dont j'ai absolument besoin.
Oui, mais qu'est-ce qui se passe si ça vous est déjà arrivé, ça, que ça n'arrive pas?
Ah oui, bien sûr. C'est parce que personne n'a pêché de maquereaux, donc dans ces cas-là, il faut être créatif.
Oui, vous improvisez avec ce que vous avez à la place.
Voilà.
Vous parliez tout à l'heure de vos maquis de haricots.
Oui.
Qui sont nécessairement d'inspiration asiatique.
Forcément.
Votre cuisine, on retrouve cette inspiration asiatique à différents endroits. Vous avez un lien particulier avec le continent ou la cuisine japonaise, chinoise
J'ai un lien particulier avec leur esprit, en fait. Enfin, ce que j'imagine être l'esprit. Je ne suis jamais allé au Japon, ni en Chine. Mais déjà, le Japon est très proche de ce que j'ai pu en lire, en voir, au niveau géographique de la Bretagne. C'est assez proche. On partage beaucoup de choses, comme le sarrasin, par exemple, les huîtres, évidemment, puisque les huîtres ici sont toutes des huîtres d'origine japonaise. Et évidemment, la culture de tous les produits de la mer, toutes les algues, qui sont très, très utilisées dans la cuisine japonaise. Pour beaucoup, les Japonais font venir leurs algues de Bretagne, parce qu'ils n'ont plus assez de ressources. Et surtout, chez moi, cette recherche du geste et du geste un peu ritualisé que je trouve merveilleux parce que extrêmement pur. Donc, moi, j'ai l'impression naturellement que je tends vers ça et c'est ce qui me rapproche aussi beaucoup de nos amis japonais. Hein. Ça s'inscrit même jusque sur mes bras par des tatouages. Mais c'est un Japon fantasmé que je vis parce que j'y suis jamais allé. Et peut-être que je serais déçu, en fait, je sais pas, parce que c'est une culture qui est un peu étrange. Il y a aussi... un rapport entre les hommes et les femmes qui est un peu curieux, qui me plaît moyennement de ce que j'en sais. C'est une société très figée. Donc je suis pas sûr que l'idée de fantasmer le Japon me plaît, parce que finalement j'en tire ce que j'aimerais qu'il soit. Quoi.
Voilà. Vous avez des nouvelles de votre marailleur ?
Non, toujours pas. C'est embêtant un peu quand même.
Je vais re-regarder. Vous êtes en train de réfléchir à ce que vous pourriez faire un
Non,
plan
pas
B.
encore.
Pas encore.
Mais ça va peut-être venir. Nouveau message vocal.
Le cerveau se met
je
en
me
route.
Permet. Hein. Il me dit j'ai zappé, mais j'ai zappé, ça veut dire quoi? Il est vous fou. Vous avez eu ça? Oui, vous avez eu ça. C'est les tomates avec la petite meringue à l'onagre.
Oui.
On dessert. Ça. Là, on est vraiment... Les tomates, c'est fou.
C'est la pleine...
Non, mais là, on arrive juste au moment où ça va être dingue, quoi. On va même plus savoir quoi en faire. Nous, toutes les tomates qu'on a ici, il n'y en a pas une qui passe au réfrigérateur. Elles restent toujours, parce que le froid les flingue, donc on a la possibilité qu'elles soient cueillies et utilisées immédiatement sans passer par le frigo.
Là, je
vois
de la rhubarbe.
Ouais.
C'est pour ce soir aussi, c'est
ouais,
pour aujourd'hui.
C'est pour ce soir.
Qu'est-ce que vous allez faire avec ça?
En fait, c'est un dessert qu'on fait avec les fraises. Fraises et rhubarbe, c'est une association qui est assez simple. Mais je pense qu'on va garder la rhubarbe pour faire de la confiture. Et on passe sur une autre association, maintenant qu'on a les tomates. Et on fait une association tomate-fraise-verveine. Et un confit de tomates. Alors, c'est une variété spéciale qui s'appelle orange-banana. Le goût est proche d'un fruit exotique, en fait. Donc, puisque finalement, la tomate, c'est rien d'autre qu'un fruit exotique. Donc ça, on fait ça en ce moment. Et on va remplacer la rhubarbe par ce confit de tomates parce que je pense que c'est bien mieux et plus inattendu.
S'il y avait un geste en cuisine que vous préféreriez, ce serait lequel?
J'adore donner un tour de moulin à poivre. Pour la bonne et simple raison que mon moulin à poivre, c'est ma mère qui me l'a donné, qui elle-même la tenait de sa mère et je crois que même ça remonte à encore plus longtemps. C'est un moulin à poivre italien, puisque je suis d'origine italienne. Et je suis très attaché à ce moulin. Et le poivre, enfin, j'en utilise beaucoup. J'aime pas trop le sel, j'aime beaucoup le poivre. Et à chaque fois que je donne un tour de ce moulin à poivre, je sais que c'est parce que je fais de la cuisine. Donc j'adore m'en servir.
Merci beaucoup, Hervé Bourdon.
Merci à vous, Caroline.
Cher Pierre et Bernard, un livre donc pour clore cette émission.
Oui, Caroline, je voulais vous parler d'un livre qui devrait fortement intéresser nos auditeurs puisqu'il y est question à la fois d'histoire de la gastronomie et d'art contemporain. Et d'abord, une fois n'est pas coutume, je voudrais vous parler d'une pure inconnue dans le monde de la cuisine, en la personne de Véronique Yersin, qui est directrice des éditions Macula, et sans qui un ouvrage aussi gonflé n'aurait jamais pu voir le jour. Voilà 40 ans cette année que les éditions Macula s'ingénient à publier des objets totalement singuliers dans le monde de l'art, et en abordant la cuisine, ils n'ont pas dérogé à leur karma que d'offrir au lecteur l'objet le plus insolite qui soit. Alors je vais quand même essayer pour nos auditeurs de vous décrire la chose qui se présente en trois parties. La première, qui ouvre l'ouvrage, a été conçue par l'universitaire Jean-Claude Liebenstein et s'essaye sur toutes les pages de gauche et uniquement sur les pages de gauche avec un texte quiché en haut et à gauche à une synthèse complète de l'histoire de nos manières de table d'Érasme à nos jours. En regard, donc, sur les pages de droite, on trouve des facsimilés de recettes en vieux français de ce qu'il est convenu de considérer comme le premier livre de cuisine moderne qui s'intitule « Le cuisinier français » de François-Pierre dit Lavarenne, paru en 1651. La deuxième partie de l'ouvrage se situe, disons, dans la quatrième dimension de la cuisine, celle où l'on s'interroge sur la différence de taille entre l'art gastronomique et toutes les autres formes artistiques, avec cette question centrale, comment rendre compte d'une œuvre éphémère ? Parce que même si les restaurants sont devenus aujourd'hui le royaume de tous les Instagrammeurs du monde, qui n'en rendent compte qu'à travers les formes et les couleurs des plats servis, la réalité gustative, elle, reste enfermée pour toujours dans notre cerveau et notre mémoire unique de mangeur. Et il fallait bien les immenses cuisiniers Michel et César Troisgros pour accepter qu'un photographe s'intéresse non pas aux plats sublimement dressés dans leur restaurant, mais aux plats desservis, en clair, ce qu'il reste dans l'assiette juste avant la plonge. Et comme vous l'imaginez, chez Troisgros, il ne reste pas grand-chose. Et c'est le photographe plasticien Éric Poitevin qui a donc choisi des assiettes dont les convives anonymes étaient, sans le savoir, les auteurs d'œuvres picturales minimalistes d'une sublime beauté, entièrement composées par les traces de leurs gestes de mangeurs sur le fond blanc immaculé de leurs assiettes. Et puis, pour que le lecteur puisse recomposer la matière manquante, dans la troisième partie de l'ouvrage, sont donc publiées les recettes correspondantes à ces photos mystérieuses, la mémoire objective du plat, verbalisée avec des mots écrits. Et donc, entre les photos des cadavres des plats d'un côté et les recettes écrites de l'autre par les chefs, ne reste plus au lecteur qu'à mettre simultanément en branle son cerveau et ses papilles pour reconstituer dans son imaginaire le goût du plat sans rien à se mettre sous la dent. Le livre s'intitule « Servez citron » et croyez-moi, il donne un sérieux coup de frais d'acidulé au monde de l'édition des livres sur la gastronomie.
On va aller voir en librairie, je crois, hein, pour se faire notre propre idée. Merci beaucoup Pierre et Bernard. C'est la fin de cette émission. Et c'est ainsi que se terminent les bonnes choses. Toute l'équipe, Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Matteo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Jean-Guilain May. Je vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, ce sera le journal, suivi de Signe des Temps par Marc Betzmann. À tous, à toutes, un excellent dimanche et à dimanche prochain.